l'émission Écho de la solidarité internationale, présentée par la Maison des Tiers-Mondes et de la solidarité internationale.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Robert Chalulot, de Médecins du Monde, et nous venons d'entendre que les chantiers, hélas très nombreux sur l'international, amènent bien sûr cette association à intervenir pour soigner, essayer de réparer tout ce qui se passe au cours des guerres, de multiples conflits qui atteignent les pays en ce moment. Alors, Robert, vous faites partie de Médecins du Monde depuis longtemps.
Oui, en effet. Mais tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie pour l'invitation, ce qui nous permet de parler et de faire connaître Médecins du Monde, tant là-bas, c'est-à-dire à l'international, qu'ici, dans nos délégations régionales. Oui, effectivement, je suis un Médecin du Monde depuis 1992. Donc, ça fait quand même quelques années qui sont passées. Et je vais d'abord un peu parler de peut-être de l'association au niveau, au niveau général.
Depuis quand existe-t-elle dans notre région ?
Alors, dans notre région, elle existe depuis le tout début des années 90, mais Médecins du Monde existe depuis 1980. La création de Médecins du Monde, c'est fortifié, ou c'est fait plutôt, à l'époque des Boat People, en 1980, avec un bateau qui s'appelait l'Île de Lumière, qui est parti, qui a été affrété, et les fondateurs, un des fondateurs les plus connus, bien entendu, c'est Bernard Kouchner, mais il y en avait d'autres, Lebas, Bruckner, etc. Donc, c'est à partir de ce moment-là que Médecins du Monde a commencé, si vous voulez, son action humanitaire. Et la base de son action à ce moment-là, qui est toujours aussi la base actuelle, c'est non seulement de porter du soin, mais aussi faire du témoignage. Il était important de faire connaître au public, tant national qu'international, des choses qui se passaient dans des endroits qui étaient inacceptables. Voilà, donc alors, à partir de 80, donc ça a été les Boat People, ensuite ça a été l'Afghanistan, là ça a été le Salvador, en 1981, ça a été les Yanomami, au Brésil, etc., etc., et puis d'autres, en Afrique, bien entendu, l'Afrique du Sud, et puis d'autres endroits, le Mozambique, la Côte d'Ivoire, enfin, les endroits ne manquent pas, bien entendu. Il y a, en ce moment, 63 programmes dans 45 pays différents. Et il y a aussi, et chose importante, des délégations internationales et des délégations régionales, nationales. Donc, pour les délégations internationales, la plus ancienne avec Médecins du Monde France, c'est Médecins du Monde Espagne. Et ensuite, nous avons les Suisses, nous avons aussi le Canada. Nous en avons une qui est au sud, c'est l'Argentine. Voilà. Et donc, tout Médecins du Monde intervient dans des zones de, non seulement de conflits, mais aussi de catastrophes naturelles, hein, comme on l'a vu en Haïti en 2010, lors du terrible séisme qui y a fait 250 000 morts et 300 000 blessés, plus de 2 millions de personnes qui étaient jetées à la rue, sans foyer. Et ça, c'est dans le cadre des urgences, et ensuite sur un travail plus de réhabilitation et quelquefois de développement. Alors, moi, je suis un peu issu, si vous voulez, de la branche internationale, mais plutôt côté sud-américain. J'y ai vécu quelques années là-bas. Et donc, de ce fait, si vous voulez, le début de Médecins du Monde a été marqué par un apport important des missions internationales en Amérique latine et surtout par tout l'aspect de la santé communautaire. Voilà, donc moi je me suis retrouvé un petit peu là-dedans à partir de 1992-93, en différents endroits. Au Guatemala d'abord, puis j'ai été aussi en Haïti, j'ai été à Cuba, j'ai été au Nicaragua, j'ai été responsable des missions en Colombie, responsable du groupe Amérique latine pendant plusieurs années. Voilà, en ce qui concerne un petit peu ma présentation à moi.
Votre parcours.
Mon parcours. Je ne suis pas médecin, hein, je suis plutôt dans la gestion, la coordination et la logistique. Et puis, que dire sur Médecins du Monde ? Bon, ben, on a des financements qui sont des financements de type institutionnel, hein, de l'Union européenne, de l'ONU, les différentes branches, l'UNICEF, etc. Et puis ensuite, de la générosité du public et des legs qui nous permettent, si vous voulez, une certaine autonomie et ce qui nous amène ce qu'on appelle des fonds propres, des ressources non affectées et qui nous donnent quand même une certaine indépendance.
Alors actuellement, vous êtes combien de personnes engagées dans les missions ?
Alors actuellement, à l'étranger, on a quand même assez réduit petit à petit le ratio de personnel expatrié, parce qu'il était important de faire de plus en plus de place aux personnes locales,
aux autochtones.
Et on tourne avec 250 salariés entre les personnes expatriées et les personnes ici nationales en France, y compris les délégations régionales comme celle du Languedoc-Roussillon, celle de Montpellier. Et donc après, par contre, en personnel, on va dire, local, autochtone, on arrive facilement à 3000 personnes. Et là, c'est effectivement beaucoup de personnes qui travaillent sur des missions. Lorsqu'il y a un coordinateur ou un administrateur qui est expatrié, on retrouve une trentaine ou une quarantaine de personnes locales qui travaillent à des postes importants, que ce soit des postes de médecins, infirmières, etc., et de logistique, d'administration. Voilà. Ça, c'est la partie, si vous voulez, un petit peu générale de Médecins du Monde, avec la petite partie internationale dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui, sur l'international, bien sûr, ce qu'on travaille actuellement, on a beaucoup travaillé tout ce qui est santé sexuelle et reproductive, on a beaucoup travaillé les soins de santé primaire, on intervient dans des tas d'endroits, notamment sur l'Uruguay, on est intervenu pendant de nombreuses années pour faire avancer la problématique du droit à décider des femmes. C'est un thème qui nous est cher. Et puis ensuite aussi la réduction des risques, comme en Afghanistan, on a beaucoup travaillé là-dessus, et puis en Afrique sur le sida, etc. Voilà, réduction des risques avec échange de seringues, une distribution aussi de médicaments qui sont excessivement coûteux. Voilà un petit peu pour la partie internationale. Je reviens un peu sur la partie régionale ici. Et là, ici à Montpellier, bien sûr, on a un CASO qui est situé à la rue Dunant au numéro 18.
Alors le CASO, c'est un centre d'accueil, soins et orientation.
Exactement, c'est un centre d'accueil, de soins et d'orientation. Et là, il y a 3 permanences par semaine. Et il y a des infirmières et il y a des médecins qui reçoivent un public qui vient des personnes qui sont en grande difficulté, des gens qui n'ont quelquefois pas de papier, des migrants, etc. Et on voit aussi des étudiants, même pas mal. Il y a aussi, dans ce CASO, une consultation dentaire. Donc, on reçoit des gens qui ont des problèmes, des difficultés par rapport à leurs soins dentaires. Et le CASO est constitué, si vous voulez, l'ensemble de Médecins du Monde régional ici, dans le Languedoc-Roussillon. Il y a une centaine de bénévoles et 4 salariés. Donc, orientation, le soin d'une part, je l'ai dit, et l'orientation c'est très important parce que normalement, Médecins du Monde n'a pas vocation à remplacer ni les hôpitaux ni le ministère de la Santé. Donc chaque fois qu'on le peut et qu'il est possible que la personne présente toutes les, on va dire, les possibilités d'accéder au droit commun, on essaie toujours de mettre les personnes dans le droit commun en leur expliquant bien quels sont effectivement leurs droits et tout ce qu'il peut y avoir comme barrière. Alors bien sûr, du coup, on est quand même en lien avec l'hôpital, d'une façon générale, et avec beaucoup d'autres organisations comme le Secours Populaire, Emmaüs, la CIMAD, etc.
Oui, et puis il y aura bien sûr toutes ces associations qui ont à résoudre des questions de logement.
Effectivement, à Montpellier, le logement, l'hébergement est un gros problème. Et on retrouve, si vous voulez, à Montpellier, il y a à peu près 1500 personnes qui sont à la rue, qui n'ont pas de logement, qu'on va considérer comme sans domicile fixe, et qui sont, certaines dorment carrément dehors, d'autres qui sont dans des bidonvilles, d'autres qui sont dans ce qu'on appelle les squats. Il y a 3 squats importants, celui-là dans lesquels nous intervenons aussi. Dans nos interventions, il y a aussi un programme sur les travailleurs et travailleuses du sexe. Il y a des maraudes qui se font la nuit à raison de trois par semaine, trois sorties par semaine. Il y a aussi, donc, comme je l'ai dit, un projet émission sur les bidonvilles et sur les squats. Et aussi, il y a quelque chose d'assez important maintenant qu'on a mis en place dernièrement, c'est une après-midi, si vous voulez, dédiée pour les personnes travailleurs ou travailleuses du sexe, pour qu'ils puissent, si vous voulez, qu'on puisse répondre à des points qu'on n'aurait peut-être pas pu aborder ou qu'ils n'ont pas osé aborder quand ils sont venus dans le camion, quand on fait les maraudes. Et donc, ça nous semble un point assez important de le dire. Et un dernier projet, la Haute-Vallée de l'Aude. Là, on retombe sur le désert médical et c'est quand même un truc.
Alors, nous y
important.
Reviendrons. Là, vous avez apporté une musique. De quoi s'agit-il ?
Oui, j'ai apporté une musique sur un thème qui nous tient à cœur aussi. C'est sur le droit des femmes, sur la défense des droits des femmes et leur lutte. C'est une chanteuse qui s'appelle Lila Downs, qui est une chanteuse mexicaine états-unienne. Et la chanson s'appelle Dignificada.
Écoutons-la.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía.
Alors, Robert, nous venons de faire un peu le tour de tout ce que fait Médecins du Monde. Vous avez une expérience, vous l'avez dit, en Amérique latine, et vous vous préoccupez en ce moment du Mexique.
Oui, effectivement, et la chanson tombait très bien, effectivement, puisque la personne à qui est fait référence dans cette chanson, c'est Digna Ochoa, qui était une avocate défenseuse des droits humains et qui a été assassinée à Mexico en 2001. Donc, effectivement, on a plusieurs missions en Amérique latine, hein, en Colombie, en Salvador, et au Guatemala et au Mexique. Et alors, là, nous avons une coordination qui est basée sur au Guatemala pour tout ce qui concerne les personnes migrantes et réfugiées, on peut dire. Et nous avons une mission aussi, un projet qui se trouve à la frontière du Guatemala avec le Mexique, à Tapachula, exactement. C'est un endroit dans lequel nous sommes là depuis déjà plusieurs années, avec différents projets. Et là, le dernier projet en date qui fait un petit peu sens et qui est dans l'urgence, c'est un travail avec toutes ces personnes qui migrent de l'Amérique centrale ou de l'Amérique latine et qui veulent aller et qui se rendent pour aller aux États-Unis. Alors, bon, on connaît la politique de Trump concernant...
Oui, concernant le mur.
Concernant le mur, concernant l'immigration. Et ça pose quand même de problèmes sérieux, tant au Mexique qu'aux autres pays centra-américains. Je vais surtout parler de dire du Salvador, du Guatemala, du Nicaragua et du Honduras, puisque c'est essentiellement de ces quatre pays-là centra-américains qui vont vers le nord et qui passent par le Mexique. Le Mexique étant considéré toujours comme l'Amérique du Nord, mais c'est un pays lime et il y a environ 400 000 personnes qui transitent pour aller de la frontière sud à la frontière nord, qui transitent tous les ans. Alors, les conditions ont été extrêmement difficiles pour ces personnes-là parce qu'elles n'ont aucun accompagnement particulier, aucun recours. Et jusqu'à présent, elles faisaient cela de façon, on va dire, individuelle. Et le gouvernement, quand même, je dois le souligner, le gouvernement mexicain, à partir du moment où quelqu'un rentre sur le sol mexicain, il a droit, normalement sur le papier, il a droit à l'accès à la santé. Je dis bien sur le papier parce que dans la réalité, les choses ne se passent pas comme ça, d'autant que quand on est un migrant clandestin et que l'on va se présenter dans un centre de santé, on a toujours peur de se faire reprendre et de se faire ramener à la frontière ou dans son pays. Donc ces personnes qui voyageaient de façon en famille ou en petit groupe se faisaient, si vous voulez, chaque fois attaquer par des délinquants, des états, y compris des gens qui travaillent sur le narcotrafic. Et il y a beaucoup d'assassinats et de personnes disparues au Mexique et qui se font racketter. Ils vendent tout dans leur pays pour avoir de l'argent et quand ils arrivent au Mexique, ils ont des difficultés, ils se font avoir et ils sont obligés de retourner quelquefois dans le pays sans avoir même pu arriver jusqu'à la frontière des États-Unis. Il y a cette partie-là, et puis il y a aussi une autre partie importante, c'est ce qu'on appelle les retournés, c'est-à-dire les gens qui sont aux
refoulés.
États-Unis. Alors, les refoulés et les retournés. Les retournés en espagnol, c'est retornado. C'est pour ça que j'ai retourné. Oui. C'est-à-dire qu'on renvoie des États-Unis, des personnes qui étaient aux États-Unis déjà depuis 10, 15 ans, même certaines 20 ans, qui se sont retrouvées renvoyées dans leur pays d'origine. Alors, ceux-là, on les renvoie en autobus, et là aussi, c'est pareil, il n'y a pas grand monde pour les recevoir. Et la grosse difficulté, si vous voulez, pour ces gens-là, c'est qu'il y en a certains qui sont partis pour des causes de sécurité, pas uniquement que pour des causes économiques, mais pour des causes de sécurité. Vous savez, enfin, on a déjà entendu parler au Salvador des maras, des bandes, qui font la loi, et qui, pour une raison ou pour une autre, si vous ne leur obéissez pas, vous risquez de vous retrouver avec une balle dans la tête, facilement. Donc, beaucoup de personnes ont fui le Salvador, ou même le Guatemala et le Honduras, parce que ce sont les trois pays où il y a des bandes comme ça, des pandillas, des maras, et se sont retrouvés à déménager vers les États-Unis, d'immigrer vers les États-Unis pour essayer d'avoir une vie meilleure, d'une part, et surtout être en sécurité. Donc ces personnes-là, on les renvoie facilement depuis les États-Unis, surtout depuis qu'il y a Trump, on les renvoie facilement dans leur pays. Je tiens à souligner quand même que ce renvoi de personnes dans les prisons, qui se trouvent dans les prisons états-uniennes, n'est pas un fait nouveau. En Haïti, par exemple, à partir de 1997, ils ont renvoyé tous les mois une centaine de personnes qui sont venues en Haïti, des personnes qui ne parlaient même pas ni le français ni le créole, et qui se sont retrouvées là à faire ce qu'ils savaient faire, c'est-à-dire essayer de faire des actions criminelles ou des actions de délinquance pour pouvoir vivre. Donc, le problème aussi qui se pose actuellement au Mexique, qui est tout à fait nouveau et qui est même assez inquiétant, c'est le problème de personnes qui arrivent du continent africain. Ils sont en ce moment entre 3 et 4 000, près de Tapachula, plus ou moins cachés. Et ils essaient de se joindre à des caravanes pour pouvoir remonter vers les États-Unis. Ces caravanes ont été formées par des personnes de différents pays centro-américains, comme je disais, Honduras, du Guatemala ou du Salvador. Ils se sont formés en caravane pour avoir des conditions de sécurité, de déplacement plus sûres. Ils se faisaient moins attaquer quand ils étaient nombreux et ils étaient beaucoup plus visibles. Et là, maintenant, venus se greffer à ce type de transport, entre guillemets, est venu se greffer des Africains, des Pakistanais aussi, mais pas que des Africains, des Pakistanais. On y trouve aussi des Haïtiens, quelques Cubains. Et donc, c'est un phénomène un peu nouveau et le gouvernement mexicain ne sait pas comment prendre les choses là-dessus. Ce sont des personnes qui, d'une façon générale, parce que la majorité vient d'Afrique, parlent le français, donc ne parlent pas l'espagnol, ils ne parlent pas l'anglais, c'est très compliqué, et ils n'ont pas beaucoup de ressources. Médecins du Monde les appuie d'une façon comme elle le peut, en fournissant de l'eau potable, quelquefois des médicaments, en faisant quelques consultations, etc. Mais le grave pour eux, c'est que lorsqu'ils essaient d'arriver à la frontière des États-Unis et qu'ils sont refoulés, on ne les refoule que dans la frontière sud. On n'a pas les moyens de les renvoyer en avion chez eux. Ça coûterait beaucoup trop cher. Ça ferait des tas d'avions, des tas de déplacements. Donc là, c'est un problème qui est auxquelles le gouvernement mexicain doit faire face, mais pour l'instant, il semblerait qu'il présente pas mal de difficultés. Et ils essaient aussi de passer en bateau. C'est-à-dire, il y a dernièrement, il remonte par la Colombie, il traverse le golfe du Darién et la forêt du Darién, qui est un endroit vraiment inhospitalier, avec des chaleurs suffocantes. Il y a pas grand monde qui habite là-dedans, quelques Indiens Emberes, une ethnie du coin. Et puis, dernièrement, il y en a qui ont fait un bateau, et qui ont remonté, et on ne sait pas d'où est parti le bateau, et qui ont remonté jusqu'au Mexique, et qui ont fait naufrage en face d'un... Presque, ils allaient sur Oaxaca, en principe, et ils ont fait naufrage sur le Pacifique. Il y a eu une vingtaine de morts, 7 rescapés uniquement, et puis je ne sais pas combien de disparus.
Eh bien, Robert, en effet, c'est une situation vraiment critique que vous nous décrivez. Vous avez apporté une autre musique ?
Non, mais je vous la laisserai choisir si vous le voulez bien. Ou alors vous pouvez continuer avec Lila Down.
Voilà.
Ay morena, morenita mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer. Que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira, los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que no quiero. Seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar.
Alors, je rappelle que je suis avec Robert Chalulot, de Médecins du Monde, et que nous vous parlons, bien sûr, de l'intervention multiple de ce mouvement, à la fois là-bas et ici. Et ici, justement, pour la Journée mondiale des droits de l'homme, le 10 décembre, le Centre Documentation Tiers-Monde a invité Médecins du Monde à venir traiter de ses interventions auprès des migrants, ici et là-bas. Alors là-bas, nous avons vu un peu ce que ça donne, et ici... c'est Cyril Jaume, le délégué régional de Médecins du Monde, qui viendra nous en parler. Mais je pense que Robert, vous serez aussi présent.
Je pense que je serai présent, mais voilà. Je crois qu'il y aura aussi Damien Nantes, qui est le coordinateur régional, qui sera là aussi présent et qui connaît très bien toutes ces thématiques-là. Oui.
Voilà, alors vous avez parlé des difficultés d'hébergement qu'on rencontre pour les migrants à Montpellier, mais ce ne sont pas les seuls.
Non, ce ne sont pas les seuls. Il n'y a pas uniquement que des migrants, il y a beaucoup de personnes qui sont jetées à la rue de plus en plus. Mais effectivement, en ce qui concerne toute la partie qui concerne la migration, si vous voulez, on a, nous, de notre côté, vu une différence assez sensible, de l'ordre de 10-11% d'augmentation, si vous voulez, de fréquentation au caso des personnes en difficulté dues, effectivement, à cette migration. Alors, on est une région qui est finalement pas beaucoup touchée par la migration. Il y a d'autres endroits qui sont beaucoup plus touchés que ça. Mais il faut tout de même savoir que cette migration a connu, si vous voulez, une ampleur sans précédent à partir de 2015-2016, due à la crise syrienne. Donc, la crise syrienne, les choses, si vous voulez, il n'y aurait pas eu la crise syrienne, on n'aurait pas eu cette augmentation de migrants. Et alors, effectivement, si on considère, si vous voulez, que dans les années 2008-2014, on avait aux alentours de... Pardon, dans l'espace européen, 300 000, 400 000 demandeurs d'asile, dans tout l'espace européen, je le répète, on est passé rapidement à 1 million 3. Avec quand même une chute en 2018, on est revenu sur 310 000, toujours dans l'espace européen.
Alors, en France, il y a eu les États généraux des migrations en 2018, justement.
Oui, alors les États généraux des migrations en France en 2018, ça a été surtout... peut-être de savoir comment on pouvait contenir l'immigration en France et comment on allait externaliser, si vous voulez, la demande d'asile. De deux façons. Il y a la première, on a traité avec la Turquie et puis dernièrement avec la Libye dans des conditions ignobles, je le répète fortement. Et ensuite, il y a eu aussi la circulaire Dublin qui fait que les personnes demandeurs d'asile sont obligées de demander l'asile dans le premier pays dans lequel elles arrivent. Or, les premiers pays dans lesquels elles arrivent, on trouve Chypre.
C'est souvent l'Italie.
L'Italie, Chypre et la Grèce. Alors, quand on dit la France, il y a des déclarations, que la France est en passe de devenir le pays qui reçoit le plus de demandeurs d'asile, c'est faux.
C'est complètement faux.
C'est complètement faux. Effectivement, dans la dernière année 2018, en 2019, il y a eu 115 400 demandeurs d'asile pour la France. Mais il faut ramener ça, si vous voulez. Parce que si on donne des chiffres bruts, ça ne veut absolument rien dire. C'est comme si je vous dis, j'ai deux appartements, j'ai un appartement à louer à 1000 euros et l'autre à 550 euros, sans plus. Vous prendrez celui à 550 euros et l'autre vous dirait qu'il est cher. Mais s'il y en a un qui fait 100 mètres carrés, l'autre qui fait 20 mètres carrés, voilà. Donc, il faut ramener ces chiffres-là, si vous voulez, au nombre d'habitants. À Chypre, il est rentré 13 000 quelques migrants pour 1 700 000 habitants. Et en France, 115 400 pour plus de 62 millions d'habitants. Donc, ça ramène, pour 1 million d'habitants à la France, ça ramène à 1 700 demandeurs d'asile pour 1 million d'habitants. On est loin des autres pays européens. On en arrive là au 15e rang, facilement. Et si on considère le PIB et l'étendue du territoire, on tomberait encore un petit peu plus bas. Donc il faut arrêter de dire et de penser, si vous voulez, que le problème de la migration, c'est la France qui est en train d'en supporter les plus grandes conséquences.
Voilà. Donc, je rappelle que ce Café Actualité va se passer à l'espace Martin Luther King, 27 boulevard Louis Blanc, de 12 à 14 heures, le 10 décembre. Et puis, je passe maintenant au calendrier, puisque l'heure avance. Alors, dès le mardi, le calendrier départemental pour nous, c'est d'abord le jeudi 5 décembre à 19h45 au cinéma Diagonale, 8 rue de Verdun à Montpellier, Déplacer les montagnes et une projection précédée du court-métrage C'est Douba de Nathalie Blom, suivi d'un débat avec la réalisatrice Laetitia Cuvelier, et c'est organisé par la CIMAD dans le cadre du festival Migrants en scène. Donc, je rappelle, le mardi 10 décembre de 12 à 14 heures, le Café Actualité, intervention de médecins du monde auprès des migrants ici et là-bas, avec Cyril Jaume. Et puis, les amitiés franco-malgaches via Vanana interviennent au marché de Noël, samedi 14 décembre à Cournon-Terral. Et samedi 14 décembre et dimanche 15 décembre, au marché de Noël à Montpellier, à Notre-Dame de la Paix, rue Cyprien, Rome. Donc, vous y trouverez les produits artisanaux, malgaches, que cette association pourra vous vendre pour cette vente de Noël. Également, Espoir pour un enfant vous rappelle ses braderies du samedi 7 et dimanche 8 à Saint-Jean-de-Védas, à la salle des Granges, de 9h à 18h, pour la vente de Noël. Enfin, pour nos partenaires, eh bien, il y a sur le plan régional, le mardi 10 décembre à Montpellier, une table ronde sur le numérique, un enjeu pour mon association, qui est animée par Solidatech, est organisée par le mouvement associatif Occitanie. Et puis, à l'invitation de nos partenaires, mardi 3 décembre à 20h, à la salle Guillaume de Nogaret, à l'espace Pitot à Montpellier, une conférence débat géopolitique de la Grèce, Balkans, Turquie, Méditerranée, avec Jean-Arnaud de Reims, rédacteur en chef du Courrier des Balkans, collaborateur du Monde diplomatique. C'est organisé par le collectif Montpellierin de solidarité avec le peuple grec et les Amis du Monde diplomatique. L'accueil est à partir de 19h. Vous y trouverez des stands, des livres sur les Balkans et la vente de produits d'entretien de la coopérative Viom de Thessalonique. Il y aura un apéritif et après le débat, la signature du livre de Jean-Arnaud de Reims, « Là où se mêlent les eaux, des Balkans au Caucase, dans l'Europe des confins ». Et jeudi, mercredi 4 décembre, à la Carmagnole, à 18h, vous pourrez entendre « Le Irak, quelques clés pour comprendre la colère du peuple algérien » par Bachir Daek, qui est juriste et militant associatif et que vous avez déjà entendu sur cette radio récemment, puisqu'il a traité du même sujet pendant la quinzaine de la solidarité internationale. Merci à Robert Chaluzot, pardon, et à bientôt, chers auditeurs.
Merci, au revoir.